C'est produit par de l'électricité, mais c'est plus un système où on va pouvoir produire. Si je vous la fais courte, c'est un peu comme un congélateur où on va broyer de la glace et jeter de la glace. Il permet de faire de la neige avec des températures très élevées, comme vous pouvez le constater. Mais on essaie d'avoir un impact écologique moindre avec des panneaux solaires et des fonctionnements. Ah, bah voilà. Et en plus, donc, vous pouvez mettre la glace pilée dans le jetpack, ça fonctionne.
C'est
ça, c'est bien.
Le monde d'après, c'est maintenant.
Je vous rappelle aussi que si vous achetez un engin de damage, vous avez un burger offert. Hein.
Demain. Ok, boomer.
France Inter.
Si vous voulez le café, il faut acheter le travail.
Demain. C'est bientôt demain.
Le monde d'après, c'est maintenant.
Antoine Chao.
Bonjour. Salut. Bonjour. Ben voilà un skieur sur béton.
Julia 2.
Bonjour.
En fait, la neige artificielle, elle tient bien la chaleur. Il fait 20 degrés, t'as fait un mètre de neige compactée, ça tient. Par contre, la pluie, ça tient pas. Et ça, c'est pas prévu, quoi. C'est pas prévu. En 30 ans que j'habite là-bas, j'ai jamais vu un mètre de neige en décembre partir en 3 jours. Alors, l'organisateur des JO qui avait bien voulu débattre, je lui dis, mais il va pleuvoir sur vos pistes. Qu'est-ce que vous allez faire? Je lui dis, vous allez mettre un toit et protéger vos pistes? Et bien, il m'a répondu, c'est une bonne idée. On pourrait mettre même des panneaux photovoltaïques dessus. En fait, nous, on lit l'avenir dans les rapports du GIEC, eux, ils lisent l'avenir dans les rapports comptables. C'est deux méthodes.
Et oui, il est remonté, José. Il est surtout inquiet pour sa montagne où il a grandi. Et le mercredi 17 avril, il ne voulait pas louper le rassemblement festif et convivial à l'appel d'Extinction Rébellion Grenoble et de nos JO 2030, avec une grande course de ski sur bitume et béton pour dénoncer l'artificialisation et la courchevelisation de la montagne. C'était devant Alpexpo, le parc des expositions de Grenoble, qui accueillait le Mountain Planet, salon des aménageurs et exploitants de la montagne, tout le matériel dernier cri en démo et en vente directe pour skier par toute température et domestiquer la montagne. Le clou du salon, le canon à neige qui fonctionne par température positive et qui fait aussi des glaçons pour l'apéro. Génial, mais devant l'entrée du salon, tout le monde ne l'entend pas de cette oreille. José Plucky, par exemple.
C'est bien. Bien. Tôt. Demain. Sur France Inter.
Les engins de damage, nos amis les snowmakers sont là, on les salue. Avec la nouvelle cabine 15 personnes en mode XXL pour le staff, les secours, le matériel, les touristes bien entendu.
C'est un peu, toi c'est le salon de l'agriculture pour les stations de ski quoi. C'est un peu, toi c'est...
Il y a des gros engins.
Voilà, l'alcool coule à flot, c'est là où les élus achètent un télésiège débrayable au double de ce qu'ils ont besoin. C'est là où il y a plein d'histoires de béton qui ont commencé, donc on ne pouvait pas le rater. Ah ouais, ils appellent ça l'aménagement de la montagne, mais c'est plutôt le déménagement de la montagne parce que les habitants permanents, vu qu'ils leur modèle c'est Courchevel sur toutes les Alpes, nous on va déménager quoi, on va partir. Eux ce qu'ils veulent faire c'est Courchevel, moitié Dubaï. Et puis alors le réchauffement climatique, ils ont un problème de déni quoi là qui est impressionnant quoi. Enneigeurs, et ça c'est préparer l'avenir. Il y a 80 routes qui sont éboulées au mois de décembre, mais on va construire des autoroutes pour aller plus vite dans le mur. Votre modèle c'est Courchevel, vous voulez faire Courchevel partout, mais vous le faites avec l'argent public et vous tapez dans les services publics, tout ça pour de l'amusement. Vos enfants, vous allez leur expliquer comment, qu'au lieu de préparer l'avenir, vous avez construit des canons à neige. Vous allez faire comment? Vous allez leur expliquer quoi? Que vous étiez des champions du monde du déni climatique. Il faut toujours plus haut, plus cher, plus con. Il y en a marre des écolos. Allez, 5 milliards! C'est quoi 5 milliards? Pour les JO d'hiver, quand il n'y a plus d'hiver! Quelle bonne idée!
Et toi, t'as vu vraiment la vie changer dans la montagne?
Oui, oui, bah oui, avant c'était. Mais par exemple, tu vois, si on parle du ski, ils ont détruit le ski. Moi j'aimais beaucoup le ski, les bosses, j'avoue, hein, la descente à fond, à taquet. Et ben maintenant en fait ils ont mis des télésièges débrayables qui fait qu'il n'y a plus de queue en bas, mais il y a la queue dans la descente. Alors vu qu'il y avait trop d'accidents, bah, qu'est-ce qu'ils ont fait ici? On leur a dit, vous allez mettre des coups de bulldozer. Donc maintenant c'est tout plat, il n'y a plus de bosses, parce que ça fait des accidents. Puis il y a trop de monde. En fait, avant on faisait la queue en bas, ce qui était bien, puis on se tapait une belle descente, on se reposait. Et maintenant on fait la queue dans la descente, et même gratuitement, je ne vais pas dans les grosses stations, parce que c'est tout plat, c'est lisse, il y a trop de monde, ça ressemble à un supermarché, il y a des écrans géants, il y a de la musique, des gens bourrés, et en plus... Bah c'est cher, donc les gens, quand ils sont comme moi, ils vont dans les trucs sociaux, parce que moi je suis une famille pas très riche, j'ai appris le ski, je suis devenu mordu parce que c'était gratuit, et bah, je suis allé skier après. Et là ils s'aperçoivent qu'il y a de moins en moins de gens qui skient. Bah pourquoi? Parce que en fait, en supprimant tout ce qui permettait, en fait, par exemple, avant, dans les stations de ski, en intersaison où ils sont vides, les centres sociaux, ils leur faisaient les forfaits gratuits. Donc il y avait le centre d'Aubervilliers qui venait, et les gens des banlieues, les comités d'entreprise venaient et ils skiaient gratuitement, hors saison. Et les gamins, ils apprenaient le ski, et puis il y en a plein qui prenaient le virus, et après, ça faisait des skieurs. Et à un moment, ils se sont dit, ils ont mis les comptables, tu vois, les mecs qui arrivent, qui réfléchissent avec des tableaux Excel, et leur ont dit, bah, faites payer les centres sociaux. Et les centres sociaux, bah, ils ont fermé. Tous les centres sociaux, des comités d'entreprise et des mairies de banlieue, tout a été vendu. Donc ils ont fait des promotions immobilières, et d'un coup ils se retrouvent vides. Et puis ils se retrouvent avec des jeunes qui ne skient pas, parce qu'ils n'ont pas appris. Et quand tu leur expliques ça, ils disent c'est pas grave, on les remplacera par des Russes. À l'époque c'était remplacé par des Russes et des Chinois qui viendraient. Donc il fallait construire des aéroports. Bon là ils ont un peu changé, surtout avec les Russes. J'ai eu un office de tourisme qui m'a expliqué, en fait, pour une semaine on peut faire venir les Chinois.
Alors t'es venu à ski toi aussi?
Oui, ah oui, non, non, j'ai perdu mes skis. Mais ouais. Ils ont peut-être fondu avec la chaleur. Je m'appelle Anna et j'habite à Embrun. On se questionne quand même sur l'avenir du ski et surtout le fait que bah, plutôt qu'une adaptation, il faudrait avoir une vision de plus long terme et du coup prévoir la conversion de la montagne. Et c'est pas du tout ce qui est fait actuellement. On sait que le permafrost est en train de fondre et que ça fait bouger les pylônes des remontées les plus hautes. Donc on s'est dit, bah, pourquoi ils continuent à en poser, quoi. Voilà, c'est vraiment des millions de gâchés. Et puis bah, en plus, cet argent, c'est quand même de la subvention, c'est de l'argent public. Et puis en parallèle, bah, avec le réchauffement climatique, c'est vrai qu'ils se disent, bon, bah, de toute façon, les petites stations ont fermé, les moyennes sont en train de fermer, tout se concentre sur les grosses qui vont se gaver encore plus. Donc ils investissent à fond pour faire monter plus haut et relier les stations aussi entre elles. Il y a beaucoup de projets, en fait. Notamment, ils aimeraient relier le glacier de la Girose aux deux Alpes, et voire même jusqu'à l'Alpe d'Huez. C'est toujours développer plus, mais pour une catégorie population de plus en plus réduite et sélecte, quoi. Et tout en continuant à exploiter les saisonniers, à leur faire des contrats précaires et de plus en plus courts. Voilà, sans qu'il y ait de ruissellement, comme diraient certains. Pour la population locale.
Et voilà, ça se Courchevel. En fait, on est coincé entre Courchevel qui descend et la Côte d'Azur qui remonte. C'est pour ça que la montagne est rebelle, quoi. Elle était belle, mais on va être obligé. C'est la gentrification, on va être obligé de partir, de rentrer dans notre pays, le pauvristan.
Pourtant, que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer? En voyant autant des truelles, que l'expulsion vient d'arriver.
Où sont les beaux appartes? Tu fais DJ en même temps, hein, José, c'est ça?
Ouais, bah ouais, on a fait des goguettes militantes. On a remixé aussi Jean Ferrat, que la montagne est rebelle, avec des amis saisonniers des stations. Ouais. Une chanson, pareil, qui raconte l'histoire des saisonniers qui s'en vont peu à peu, chassés par la spéculation immobilière et le rêve du Courchevel universel.
Pourtant, la montagne est rebelle, comment peut-il s'imaginer la transformer en fruit citadelle, vérifier tous assistés.
Batterloger ailleurs.
Y'en a marre des écolos. Le réchauffement nous ment. Pascal Pro président.
Ouais. Eh oui les gars, allez. Oh là, on s'en fout, t'as tiré 5 grammes de neige, on y va. 20 grammes sur le Vercors, 20 grammes dans le Vosges, 20 grammes dans le Jura, 20 grammes dans les stations à 1800 mètres, c'est pas grave, on continue.
fait bien demain. Antoine Chao.
Là, c'est l'arrivée des trois champions, les champions du béton.
Sur France Inter.
Allez les jeunes, c'est pour vous les jeunes. Ça va être super pour vous, votre avenir est tout tracé. Tout va bien aller les jeunes, c'est super.
T'as bien skié là, sur le béton là.
Il m'en reste encore un peu. Quand je suis né en 1968, c'était les Jeux Olympiques à Grenoble. Ma grand-mère m'avait brodé des anneaux olympiques sur mes langes. Donc ça veut dire que nous, dans les Alpes, on vit dans ce ski depuis notre naissance et que c'est un bonheur. Mais malheureusement, on en arrive à un point où il va falloir faire le deuil de beaucoup de choses. Et même moi qui ai participé aux Coupes du Monde, on est membre des équipes de France pendant longtemps, participé aux Jeux Olympiques à Vancouver, à un moment, on se dit il faut qu'on revienne à quelque chose de plus de proximité. Le sport, je continue à aimer ça, il n'y a pas de problème, mais malheureusement la neige, en ce moment c'est la fin, c'est un peu la fin. Alors c'est un problème économique, mais c'est un problème aussi de personnel, hein. C'est comme si on disait à un breton, la mer s'est retirée et puis tu peux plus faire du bateau. C'est dur à entendre, c'est très très dur à entendre pour la population, l'aspect économique, mais l'aspect humain aussi qui est derrière. Et malheureusement, c'est pas en faisant du déni que ça va arranger le problème, hein. C'est en le prenant à bras le corps, même si c'est déjà malheureusement bien avancé. Avant qu'ils nous prennent vraiment par la gorge. Et nous, dans les Alpes, cette année, tout le monde a été pris à la gorge. Tout ce qui se situe à moins de 2000 mètres d'altitude, on n'a pas travaillé, il n'y a pas eu de neige dans les stations, c'était la catastrophe. Bon, il reste en haute altitude, les stations. Mais alors là, c'est des stations très huppées, où ça, c'est vraiment une élite qui va dans ces stations. Le reste, ils ont juste les miettes. Moi, je vois le type de véhicule qu'on voit dans nos vallées qui circulent. Alors, il y a deux types de véhicules. Il y a ceux qui bossent, qui ont des petites voitures, et puis ceux qui profitent, qui ont des grosses voitures. Mais c'est vrai, on voit la différence entre l'été et l'hiver. L'hiver, c'est vraiment... on sent que ça coûte cher, la neige. C'est parce qu'il y a les infrastructures, faut les faire tourner. L'été, on voit encore des gens de classe moyenne. Par contre, en hiver, on voit vraiment que ça reste... Pas que, mais en grande majorité. Et puis il y a ça, et c'est lié, le fait le phénomène des maisons secondaires. Alors je sais qu'il existe ailleurs en France, en Pays Basque, en Bretagne. Mais nous, dans les Alpes, avec le réchauffement en plus, beaucoup de gens qui ont des moyens viennent racheter tout ce qui se fait dans les Alpes, parce qu'il fait un peu plus frais, hein, c'est aussi basique que ça. Et donc, ils achètent les maisons. Et donc, on se retrouve, moi, dans mon petit village, on est 8 habitants. Hein. Et bien, on n'a plus que des maisons secondaires. Et il y a un gars qui vient de construire un chalet à 800 000 euros. Mais il n'est jamais là. Donc, il y a tout ça qui est lié. Et ces Jeux Olympiques, ils ont cette vision. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas changer cette vision. Donc, pour l'immense majorité des habitants des Alpes, on va pas s'y retrouver, forcément. Il faut changer de paradigme. Et ces jeux, ils empêchent justement la bascule dans les têtes. Ils empêchent de changer de paradigme, de se dire, attends, il faut qu'on voit les choses différemment, autrement ça va pas passer. Et ça passera pas, de toute façon. De toute façon, c'est bloqué. Et même quand on donne des données, nous, on est des lanceurs d'alerte, hein, quelque part. On n'est que là pour ça, pour dire ça. C'est le GIEC qui nous donne des chiffres, il nous annonce 3, 4 degrés, les Alpes. C'est un des endroits du monde qui se réchauffe le plus.
Tu veux bien te présenter ?
Stéphane Passeron, un des porte-parole de nos JO, puis ex-membre des équipes de France de ski nordique, et qui est bien triste de ce qui se passe. Parce que mes enfants, ils font des courses de ski, ils aiment ça, et on n'est pas bien. On n'est pas bien. C'est dur.
Nous, vous savez, on jette l'argent par les fenêtres. Hein. C'est ça, d'extérieur vers l'intérieur. Bon, ça.
Alors ça y est, on plie l'action, ouais. La mobilisation. Comment ça s'est passé? Alors toi, tu parlais aux gens qui sortaient. Hein.
Ouais, c'était intéressant parce que déjà de physique, de l'apparence des individus, on pouvait un peu savoir d'où ils venaient et pourquoi ils y venaient. Alors déjà, c'était hyper multinational, ça, je trouvais ça hyper intéressant. Donc déjà, on voulait saisir les gens au vol et en français, ça marchait pas. Donc fallait un peu dérouiller l'anglais, ça c'était bien. Et ce que j'en pense, c'est que ce qui revenait très souvent, c'était des gens en fait qui vivent du milieu de la montagne et en fait dont leur économie et leur gagne-pain est éminemment lié à ça. Et du coup, à chaque fois, ils nous mettaient en porte-à-faux de nous ramener à notre propre condition de salarié, quoi. Genre, tu travailles ou tu travailles pas. Si t'es au chômage, t'as pas de légitimité à dire quelque chose. Et si tu travailles, en fait, tu comprends que moi aussi, il faut que je travaille. Et du coup, c'était un peu un coupe net dans... Ça ouvre pas du tout un peu une perspective plus large, je trouve. Parce que la réponse qu'on peut leur faire, c'est en fait, dans 10 ans, toi, tu travailleras plus. Si on en est vraiment juste sur le truc très précis du travail. Voilà. Et donc, ce que j'en pense, c'est que on a rendu visible quelque chose. Je sais pas auprès de combien de personnes, mais que de rien faire, c'était pas trop envisageable. A fortiori, quand on voit de l'extérieur, à travers ces grillages
et qu'on voit toutes ces énormes machines de... pour faire de la neige, pour détruire la montagne. Enfin,
il y a un canon qui tourne en permanence.
Et toi, tu te mobilises depuis longtemps sur cette question de, bah, de la montagne, de la vie ici
Là, je me mobilise pour un territoire sur lequel je vis momentanément, mais j'oublie pas que... Il y a des usagers et usagères qui sont un peu plus légitimes que moi aussi. Donc c'est toujours ce truc de savoir d'où on parle. Je vis à Grenoble, donc en fait, il y a aussi des retombées d'industrie du ski. Il y en a aussi à Grenoble. Et le fait de dire plus globalement, la montagne, c'est un peu un laboratoire pour la révolution socio-écologique. Parce que ce qui se passe en montagne aujourd'hui, en accéléré d'un point de vue réchauffement climatique et toutes les questions sociales et économiques qui se posent et qui en découlent, c'est ce qui va se passer à l'échelle nationale après, dans quelques années. Du coup, si on arrive à trouver des solutions ici, moi je le vois grave comme, en fait, on pourrait l'appliquer, après on pourrait l'étendre. Donc c'est un peu dans cette perspective que je me mobilise. Parce que c'est le territoire par lequel je suis entourée, même si j'en vis pas, et parce que c'est des solutions extensibles.
Merci.
Et toi, pourquoi t'es là ?
Et moi, pourquoi je suis là ? Et oui, c'est une bonne question, Camille, parce que je pense que c'est important d'aller sur le terrain, de donner la parole aux citoyens et citoyennes, même en colère, aux lanceurs et lanceuses d'alerte, aux précaires des stations de ski. C'est normal pour une radio de service public. Merci à tous les José, Camille, Stéphane, Anna et Victoria. Toutes les infos et toutes les goguettes rebelles des saisonnières des stations de ski sont sur la page de franceinter.fr et on se retrouve la semaine prochaine à l'antenne et en podcast.